invité des jardins, des petits mondes, des mondes parfaits avec l'écrivain et jardinier Marco Martella qui fait du jardinage et de l'écriture un possible geste commun, un lieu en tout cas où se tenir au monde.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Marco Martella, bonjour, bienvenue. Vous êtes écrivain, jardinier, membre de l'Institut européen des jardins et paysages, fondateur de la revue Jardin, qui sort d'ailleurs tout juste son dernier numéro aux éditions Pommes Sauvages. Et puis après deux ouvrages parus aux éditions Actes Sud, vous avanciez masqué par des figures fictives de jardiniers philosophes. Vous signez aux éditions Poésis un premier récit en votre nom, titre donc Un petit monde, un monde parfait, un titre emprunté à un poème de l'écrivaine et jardinière anglaise Vita Sackville-West pour dire justement le jardin. Est-ce que c'est une définition que vous pourriez faire vôtre ?
Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre qui me paraît expliquer avec une image assez poétique finalement l'essence même du jardin. Et peut-être ce qu'on cherche dans un jardin. Pourquoi on ouvre le portail d'un jardin? Je pense que c'est parce qu'on sent que quelque part il y a un monde petit mais parfait, parfait peut-être parce que petit et pathétique finalement.
Qu'est-ce que c'est que ce terme de pathétique d'ailleurs que vous utilisez à plusieurs reprises pour des raisons différentes et accolé à des jardins différents?
Un jardin, c'est probablement le lieu le plus fragile qui soit, le plus soumis au temps, aux aléas du climat. Il suffit que le jardinier s'éloigne pendant un petit moment, quelques mois, et le jardin disparaît. Il suffit qu'il y ait un gestionnaire du jardin ou un jardinier qui n'a pas bien compris le lieu et donc qui le maltraite de certaines manières pour que le lieu devienne autre chose et le jardin disparaisse. Donc du coup, il y a quelque chose de vraiment très fragile. Et pourtant, dans cette fragilité, je pense qu'il y a peut-être la richesse et paradoxalement la force même du jardin. Et justement, sa perfection.
Est-ce qu'il faut vraiment parler alors de monde parfait ou peut-être davantage d'instant parfait?
Plutôt d'instant parfait, bien sûr, oui. Mais il peut y avoir un monde dans un instant. Peut-être, c'est encore une fois un paradoxe, hein, quelque chose de presque éternel dans un moment qui passe, qui ne fait que passer. Voilà.
Alors ce jardin-là, hein, celui de Vita Sackville-West dans le Kent, vous le placez exactement au centre de votre récit, hein, de vos promenades ou de vos errances, dans différents jardins, puisque vous poussez la porte ou le portail de différents jardins. Il y en a 13 autres, hein, que vous traversez, que vous écrivez, que vous ressentez dans les pas de Chateaubriand, de Derek Jarman, de Hermann Hesse. Que vous poursuivez beaucoup, on y reviendra. Philippe Jacoté, Fautrier, en Italie, en Angleterre, en Suisse, en France. Alors il est question évidemment de Beaumarceau, de Versailles, de Sissinghurst. Des expériences et autant d'hypothèses sur ce qui fait, au fond, ce qui fait jardiner, ce qui fait écrire. Et pour vous, Marco Martella, ça pourrait bien commencer par là. Le parc des monstres, un extrait, hein, c'est même le tout dernier tableau du dernier acte, hein, de Beaumarceau, l'opéra composé par l'Argentin Rhinestera, interprété sous la direction de Julius Rudel en 1968, hein, c'est-à-dire à peu près au moment de un an après sa création. Bon Marzo, comme évidemment le jardin extraordinaire hein, près de Rome hein, que Orsini a conçu avec ses fameuses sculptures en pierre, ses monstres, ses animaux, avec sa dimension tragique hein, d'une certaine façon, et puis sa dimension sacrée, ses hypothèses les plus folles, les plus mystérieuses, qui a été visité notamment, et vous en parlez évidemment dans votre texte, par Dali, qui s'y est filmé par Antonioni, ça c'était dans les années 50, décrit, écrit maintes fois, et puis aujourd'hui survisité, hein, on peut le dire, sans doute, hein, que c'est l'un des jardins les plus visités d'Italie. Et puis c'est sans doute l'un de vos tout premiers souvenirs de grand jardin. Qu'est-ce que c'était que ce jardin traversé ou visité à hauteur d'enfant ? Alors, un enfant de 10 ans à peu près, hein, je crois. Mm-hmm. Comment est-ce que cet enfant-là de 10 ans le décrirait, ce jardin ?
C'est un souvenir assez net, en fait, dans mon esprit. Mais je pense que ma fascination pour les jardins vient de là. Même si, bien sûr, il y avait le petit jardin que je cultivais avec mon père, enfin, que j'entretenais avec mon père. Mais la première fois où j'ai senti que le jardin était quelque chose d'assez, un espace vraiment très étrange, je pense que c'est à ce moment-là, même si, évidemment, je n'aurais pas, à l'époque, j'aurais pas formulé ce sentiment comme ça, mais c'était l'accès à un monde absolument merveilleux. Mais merveilleux d'une façon un peu inquiétante. Vous avez bien dit, c'est un jardin un peu tragique, ou dramatique en fait, encore plus que tragique.
Dans quel sens ?
Parce que, essentiellement à cause de la présence de ce monstre en pierre qui semble surgir de la végétation sauvage comme des êtres assez effrayants en fait. C'est un jardin qui est fait pour effrayer. Mais je pense que c'est intéressant le regard d'un enfant parce que c'est évidemment c'est un peu comme un labyrinthe. En même temps, c'est un jeu, un labyrinthe de jardin. C'est un jeu. On joue à se faire peur, mais aussi ça permet d'accéder à quelque chose qui est probablement. Mais là, on fantasme un peu parce qu'on ne sait pas quelles étaient les intentions réel du prince de la Renaissance, Vicino Orsini, comme vous le dites. Mais je pense que, c'est ma lecture du lieu, bien sûr, hein, il y en a 10 000, hein, possible. Je pense que ce sentiment de peur qu'on éprouve dans ce jardin de monstres donne accès à cette terreur qui est associée, je crois, au sentiment du sacré. En tout cas, c'est la philosophe Maria Zambrano, la philosophe espagnole, parlait de la naissance, du surgissement, du sentiment du sacré chez l'homme, à l'origine, comme un sentiment associé à la peur, à la peur qu'il ressentait face au phénomène naturel, la tonnerre, etc. Donc la nature comme quelque chose à la fois d'effrayant, d'enchanté et de sacré. Mais là, comme je répète, c'est vraiment une imagination. Mais en même temps, on a découvert, étrangement, il n'y a pas longtemps, que à côté du parc de Bomarzo, tout autour du parc de Bomarzo, il y a des forêts sauvages qui sont restées pratiquement intactes. C'est assez fascinant, en fait. Il faut absolument y aller. Le parc de Bomarzo, il est plein de monde, de touristes. C'est effrayant, mais d'une autre manière. Mais si on s'éloigne, à pied ou en voiture, dans les environs du parc, il y a encore aujourd'hui les lieux que le prince Orsini a sans doute visités au XVIe siècle, qui étaient des forêts sauvages dans lesquelles il y a encore des hôtels, des sculptures, c'est un site archéologique, en réalité, étrusque. Assez étrange, assez mystérieux, toujours avec quelque chose d'effrayant, comme c'est souvent le cas chez les Étrusques, de profond et de qui est lié sans doute à un sentiment du sacré qui vient de la terre, des profondeurs de la terre. Et on peut très bien imaginer que le prince Orsini s'est inspiré justement de ce site sacré pour la composition de son parc de monstres, qui était en plus, je le rappelle, aujourd'hui on l'appelle le parc des monstres, le parc de monstres. C'est un peu comme un jardin d'attraction en fait. Mais à l'époque, le prince Orsini, il l'appelait il mio sacro bosco, mon bois sacré.
Mon bois sacré. Alors j'imagine que cette hypothèse-là, hein, celle que vous venez de décrire, vous convient parce que c'est vrai que à vous lire, alors, il y a plusieurs choses qui frappent. Hein, on va y revenir hein, sur ce qui vous lie au jardin, parce qu'il est aussi question de ça évidemment dans ce texte. C'est l'intérêt porté à la façon dont un jardin, espace clos par définition, répond au paysage qui l'entoure en fait.
Mais je pense que le jardin répond toujours d'une façon ou d'une autre au paysage qui l'entoure. Ça peut être aussi un rejet du paysage qui l'entoure. Je pense par exemple à certains jardins très romantiques, le jardin de Chateaubriand par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, la Vallée aux Loups. C'est un jardin dans lequel il n'y a aucune vue sur les paysages environnants. C'est un jardin entouré, c'est une vallée, c'est un fond de vallée en fait, entouré d'arbres et de plantes qui excluent toute possibilité de vue sur l'extérieur. Alors là, c'est vraiment un jardin qui se replie sur lui-même, dans un esprit très romantique. C'est un rejet de l'histoire, pas uniquement du paysage, bien sûr, de l'histoire qui avait blessé Chateaubriand, l'histoire à laquelle il voulait tourner le dos. Donc là, on voit comme le jardin, les formes du jardin, les structures du jardin, l'aménagement, le choix du paysagiste, du jardinier, au propriétaire du jardin, y compris par rapport au paysage, correspondent à une vision profonde et à peut-être un choix profond du jardinier.
Alors je dis ça aussi, Marco Martella, parce que, alors bon, évidemment, il y a cette question de l'extérieur, mais dans votre façon à vous de traverser les jardins ou d'en faire l'expérience, quand on vous suit, c'est bien souvent en périphérie du jardin ou au bord du jardin, ou là où le jardin devient flou, là où il se perd dans les bois, là où il va se perdre justement dans le paysage ou dans la nature, partout au fond où le jardin est à la limite du jardin. On a l'impression que ce sont ces lieux-là que vous cherchez ou ces lieux-là qui vous appellent. Est-ce que vous savez d'où vous vient ce goût du jardin, presque par son échec ou en tout cas par sa dissolution?
Non. Je pense que c'est les parties du jardin un peu plus libres en général, les moins aménagées. Déjà, ce sont les parties dans un jardin quand on va à Bomarzo ou quand on va dans d'autres jardins dont je parle, comme Sissinghurst. Ce sont les parties les moins fréquentées. Donc,
c'est parce que pour l'essentiel, les jardins que vous citez sont devenus assez touristiques. Mais, mais néanmoins, vous commencez quand même toujours par vous éloigner. On a le sentiment.
Je crois que je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Mais spontanément, c'est vrai que je vais vers la limite. La lisière du jardin, c'est la partie peut-être la plus intéressante. Peut-être c'est là que le jardin est moins surveillé. Et du coup, il laisse apparaître quelque chose de plus spontané, peut-être de plus sincère, je ne sais pas. Honnêtement, mais spontanément, je vais dans les parties, pas uniquement dans les parties les plus périphériques du jardin, mais aussi et moins fréquentées, mais aussi dans les parties les plus ombragées, celles qui sont les moins exposées, les moins données à voir. Même dans des grands jardins comme Versailles, finalement, les parties les plus intéressantes sont les bosquets à Versailles. Là aussi, peut-être c'est parce qu'il y a moins de touristes, mais aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se laisse voir, qui se donne à voir et qui est moins dans la représentation. Alors, Versailles, c'est vraiment le jardin de représentation. Mais c'est la partie peut-être la plus sincère, sans doute la plus poétique.
Puisqu'on parlait de ce premier souvenir, hein, que vous décrivez en tout cas comme tel, hein, ce premier souvenir d'enfance de grands jardins, on a le sentiment aussi, à lire tous ces jardins traversés, que le jardin, c'est, je ne sais pas, c'est d'abord, ou en tout cas aussi, une affaire de mémoire, alors de mémoire d'enfant, mais peut-être aussi de mémoire plus ancienne, hein, vous évoquiez la notion de sacré aussi, hein, on va évidemment en revenir. Est-ce que ça serait là, au fond, sa vocation première, c'est-à-dire, au fond, le jardin viendrait toujours rappeler quelque chose, ou nous rappeler à quelque chose.
Il y a toujours quelque chose, qui appartient, qui est de l'ordre de la mémoire, du souvenir dans un jardin. Mais c'est difficile de savoir de quelle mémoire il s'agit, parce que c'est sans doute notre mémoire. Là, je fais référence à mes souvenirs d'enfance quand je visite Bomarzo pour la première fois. Mais il y a aussi quelque chose qui ne m'appartient pas, qui fait partie de la mémoire du lieu, qui n'est pas uniquement l'histoire d'ailleurs. Je dirais que c'est plutôt le vécu qu'un lieu chargé justement de rêves, d'histoires, d'aspirations porte en lui. Ça, c'est peut-être en partie ce qu'on appelle les génies du lieu. C'est que les Romains appelaient les genius loci. Je pense que la mémoire, la composante de la mémoire est très importante dans la dimension des génies du lieu, du génie dans le lieu, de l'âme dans le lieu. Voilà, pour oser un mot un peu chargé, trop chargé poétiquement, l'âme dans le lieu. Je pense que c'est en grande partie ça, mais ce n'est pas que ça. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui échappe à la mémoire, tout ce qui échappe et qui est de l'ordre de la vie, de la nature déjà, de la mémoire des arbres, de la mémoire du végétal. Et aussi de la vie de la nature, de êtres vivants qui composent le jardin et qui participent effectivement de cette réalité que les Romains appelaient génie du lieu et qui, bon, c'est une expression qui revient souvent quand on parle de jardin.
Qu'est-ce que vous appelez, vous, le génie du lieu quand on parle de jardin?
C'est très difficile. En fait, je tourne autour de ça depuis des années. Je cherche. Je ne suis pas sûr de chercher une définition. Honnêtement, je n'arrive pas de parvenir un jour à saisir le sens d'un mot aussi complexe. Je sais juste que c'est une sorte de présence qu'on ressent parfois dans certains lieux particulièrement chargés. Peut-être une altérité avec laquelle on a envie de dialoguer dans le jardin, dans un jardin, dans un lieu d'ailleurs, qui est faite de sans doute plein de choses différentes. La mémoire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi dans un jardin, la nature. Ce qui se passe au moment où cela se passe, enfin où je suis dans un jardin, les sons du jardin, le mouvement de la lumière, le mouvement des nuages au-dessus du jardin, et peut-être quelque chose d'encore plus profond, de plus sacré. L'expression latine genus loci est liée vraiment à l'expérience du sacré qui se manifeste dans la réalité dans laquelle les hommes vivent leur vie. Et voilà. Et ce qui est intéressant, pourquoi on parle de genus loci, c'est parce que pour les Romains, chaque lieu avait son génie. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Et je pense que c'est pour ça qu'on revient à ce concept des latins. Donc chaque lieu possède sa spécificité. Chaque lieu est unique, d'une certaine manière. Donc l'idée de l'unicité, de cette singularité absolue du lieu, fait partie, là aussi, du génie du lieu. Mais tout ça ensemble ne donne pas une définition du génie du lieu qui doit rester, à mon avis, flou, qui doit rester justement un peu comme une image poétique, si vous voulez, mais incarnée dans un lieu, incarnée dans un moment, dans une expérience du lieu.
Je disais tout à l'heure à propos de Bormazzo que tout commençait par là, pour vous en tout cas, hein, ou à peu près. Alors, dans l'organisation de votre livre, ça n'est pas tout à fait vrai. Alors, on verra aussi que les jardins successifs racontent des histoires entre eux, mais le livre, lui, commence, disons, à sa lisière, et ça commence par ça. Well, I came upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, I said, where are you going? This he told me. He said, I'm going down to Jesus farm. Gonna join in a rock and roll. Alors la voix en live, Marco Martella, parce que vous ne reconnaissiez pas forcément cette version de Joni Mitchell interprétant Woodstock, hein, et puis cette petite phrase attrapée au fil du texte de la chanson qui dit « And we've got to get ourselves back to the garden » que vous placez en ouverture de votre livre, hein, donc sorte d'injonction à retourner au jardin, donc avec cette idée du retour, hein, malgré tout, qui traverse quand même l'ensemble du texte. Mais cette idée de la perte et du retour traverse quand même malgré tout chacun des jardins que vous évoquez. Est-ce qu'il faut y comprendre votre propre rapport nostalgique au jardin ou au fond tout simplement l'idée que la perte est consubstantielle au jardin?
Bah, peut-être les deux en même temps, mais je pense qu'il y a, on a parlé de la nostalgie tout à l'heure, je crois, la nostalgie fait partie du jardin, donc voilà, il faut malheureusement repasser par l'image un peu convenue de l'Éden, du paradis perdu et retrouvé dans les jardins, mais c'est malheureusement vrai, on peut pas s'en passer. C'est pas uniquement, c'est sûr que ça fait partie de l'imaginaire du jardin depuis surtout le romantisme ou depuis Rousseau un peu plus tôt dans les jardins de Julie de la Nouvelle Héloïse, cette espèce de jardin retrouvé, de monde sauvage d'avant la civilisation, d'avant l'histoire et donc d'avant les péchés, d'avant la coupure avec la nature. La nostalgie, oui. Donc, c'est un sentiment qui n'est pas forcément bien vu, en général. C'est un sentiment assez dans, mais que finalement que j'aime bien. Voilà, je l'avoue. C'est un sentiment un peu dangereux parce qu'on risque de s'enfermer dans la nostalgie. Donc, il faut faire attention à ça. Mais finalement, c'est un sentiment assez complexe, la nostalgie, surtout quand on parle de jardin, qui peut nous faire voir, considérer autrement la vie, notre vie, l'histoire, et même penser autrement à l'avenir, ce qui est un peu paradoxal par rapport à la nostalgie. Mais, et ça, un jardinier le comprend très bien. Parce que quand on met une graine en terre, ou quand on plante un arbre, surtout quand on plante un arbre d'ailleurs, un arbre qui fait, je sais pas, peut-être 20 cm de haut ou un peu plus, peu importe. Il est tout petit, il est tout fragile, il est un peu pathétique, je vois bien cet adjectif. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a le désir de recréer ce paradis perdu qui est à la base de chaque jardin. Mais cet arbre qu'on plante nous projette dans l'avenir, nous fait penser à l'avenir. C'est le signe d'un espoir qu'on veut affirmer, parce qu'on veut que cet arbre grandisse, qu'il devienne grand et beau, et qu'il sera grand et beau quand on sera plus là, probablement, parce que les arbres poussent assez lentement. Mais on l'imagine, on l'imagine avec espoir. Et ça nous fait penser autrement, déjà, à la vie, et à notre vie, à notre temps d'existence à nous, qui prend du sens, parce qu'il s'inscrit dans ce temps plus grand, qui est le temps de la croissance du végétal, par exemple, ou le temps de la nature. Donc voilà, la nostalgie peut être à la fin un moteur.
Pourquoi ?
Pour notre vie, pour retrouver le sens, pour redonner du sens. Je pense que c'est un peu d'ailleurs le but du jardin, pour donner du sens à ce qu'on fait, à notre présence sur Terre en fait.
Alors cette question du rapport au temps du jardin, qui est évidemment forcément très très complexe, est toute pleine de paradoxes. Pascal Cribier, architecte paysagiste, disparu il y a peu. Le Louvre lui a consacré mercredi dernier une journée sous forme d'un colloque. Et voilà ce qu'il disait justement du rapport au temps du jardin.
Je ne crois pas du tout que les jardins soient une forme d'art. Je pense que le jardin, au contraire, est une action, une réactivité au vivant pour un plaisir à la fois immédiat dans son geste, mais différé dans sa finalité. Et je n'ai pas l'impression que les millions, les dizaines, les centaines de millions de jardiniers amateurs qui souvent nous font de véritables chefs-d'œuvre, sans référence culturelle, sans copie, se prennent pour des artistes. Et beaucoup d'artistes, et certains artistes du Land Art, se prennent pour des jardiniers ou nous font croire que ce sont des jardins, alors qu'il faut à peine entrebâiller la porte du musée pour voir qu'elles sont si fragiles qu'elles ne résisteront jamais au temps, alors que la définition même pour moi du jardin est cette superposition du temps. On est dans un jardin quand d'un seul coup, on a ces échelles différentes, qui est celle de l'arbre, où nous-mêmes, on ne sait pas très bien s'il est le temps d'une génération, l'échelle, on va dire, plus petite ou en tout cas plus éphémère, mais dans les ligneux et les arbustifs, des arbustes, des vivaces, l'échelle très éphémère dans le temps d'une floraison, et quand tout ça vient se superposer à l'échelle du temps qu'il fait, on est dans un moment de grâce que seuls les jardins peuvent vous procurer. Et si d'un seul coup, vous avez un magnifique orage avec un ciel gris sur les pivoines qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui par rapport à ce printemps précoce, c'est un moment sur lequel, comme le concert, on ne pourra jamais revenir et qui sont des instants d'émotion quelque part fulgurants.
La voix donc de Pascal Cribier, j'imagine que vous souscrivez à peu près à tout ce qu'il a dit.
Absolument. Je suis assez d'accord avec ce que dit Pascal Cribier. Je pense que, bien sûr, on parle depuis longtemps maintenant d'art de jardin. Et je pense qu'il y a des liens très forts, qu'on ne peut pas nier, entre le jardinage et la poésie, bien sûr. Mais je pense que le jardin, c'est une œuvre de la poésie, comme le disait le philosophe Rosario Assunto, qui décrit le jardin comme parole qui se fait nature et nature qui se fait parole. Et la peinture, bien sûr, on a étudié le rapport entre le jardin, la peinture, la sculpture, la musique aussi, mais ça c'est un sujet à part et très riche. Ceci dit, je pense pas, pour moi le jardin, même si on parle d'art de jardin, le jardin c'est pas un art. Et je pense que c'est exactement pour les raisons qu'évoque Pascal Cribier. Cette relation au temps très, 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 très spécifique au jardin que ni le musicien, ni le peintre, ni le poète ne connaissent. Cette dépendance du jardin, du temps, qui est la grande limite du jardin pour le jardinier qui doit lutter pour garder en permanence le jardin. Il sait qu'il n'y arrivera pas dans une forme, parce que le temps lutte contre le jardin, parce que bon, le jardin sinon retrouve sa forme primitive, donc il s'échappe donc de formes que les jardiniers essaient de malgré tout d'imposer, même dans les jardins les plus sauvages, les plus naturels, et que dans cette limite il y a quelque chose de, c'est un peu la gloire du jardin, enfin c'est ce qui rend le jardin pour moi très précieux, aussi précieux que la poésie en tout cas. Mais c'est vraiment pour ce rapport très spécial, très difficile d'ailleurs et très complexe, comme Pascal Crébier le dit très bien, au temps, au passage du temps.
Alors vous dites à propos de temps, parce que vous ne parlez pas seulement des jardins d'hier, hein, vous commencez Marco Martella votre texte par un avant-propos qui parle de cet engouement pour les jardins aujourd'hui. Vous dites que le jardin n'a jamais été aussi présent, aussi sollicité, que l'heure est au jardin. Hein. C'est même la première phrase du livre. Tout en ajoutant, et je vous cite, « Jamais l'Occident n'aura connu une époque plus favorable à l'art du jardin. Il est cependant légitime d'en douter et de se demander si l'intérêt de notre temps pour les jardins ne cache pas, en réalité, le phénomène inverse. » Et un peu plus loin, vous ajoutez que cette époque, au fond, aurait perdu le sens même du jardin. Que cacherait alors ce retour de flamme pour le jardin ?
J'ai le sentiment, ou le soupçon, que... il y a quelque chose qui spontanément pousse les gens à nouveau vers le jardin, qui recherchent justement dans un jardin cette relation poétique au monde, même au sacré peut-être. Cette relation au temps d'ailleurs, qui est tellement différente du temps qui est tyrannique et despotique, qui régit nos vies en fait. Donc il y a sans doute tout ça, mais on a malheureusement transformé... et ça, c'est vrai aussi pour d'autres domaines, d'autres activités, d'autres moments importants de l'histoire, de notre vie. Par exemple, la littérature, l'art. On a transformé tout ça en produit, quoi, un produit industriel. Le jardin, le jardinage est devenu un loisir. Les jardins sont des espaces de loisir. Et on a perdu, étrangement, ce sentiment du jardin comme œuvre poétique, qui a traversé toute l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on l'a toujours ressenti, même si on l'a jamais vraiment dit. On n'écrivait pas beaucoup de jardins, mais on ressentait, les jardins faisaient partie vraiment de la vie des gens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jardins, on écrit beaucoup sur les jardins, mais il y a une distance, à mon avis, qui nous sépare de ces lieux, parce qu'à cause de cette relation, souvent, qui est purement utilitaire ou fonctionnelle. Pour les collectivités territoriales, les jardins sont des réservoirs de nature, ou des poumons verts, comme on disait autrefois, ou des espaces de loisirs, de lieux dans lesquels on peut aller promener son chien, faire du sport, pourquoi pas. Tout ça, ça fait partie, bien sûr, de la vie d'un jardin, qui sert aussi à tout ça. Mais on a perdu ces petits moments très fondamentaux, très, très importants dans l'expérience du jardin, comme expérience poétique, comme expérience même existentielle, chargée d'un point de vue existentiel ou philosophique. Le philosophe Francis Bacon a écrit au XVIIe siècle « Dieu Tout-Puissant, le premier, créa un jardin en Éden. » Il rattache le geste du jardinier au geste créateur de Dieu. Ce n'est pas rien, quoi. Et il parle des jardins comme les réalisations les plus importantes dans une civilisation. Il y a d'abord l'architecture, et quand une civilisation arrive à créer des beaux jardins, c'est qu'il atteint son sommet d'évolution et de perfectionnement. Greatest perfections.
Ce petit moment, hein, cet instant justement du jardin poétique, Marco Martella, vous commencez par lui. Hein, je vous noterai que j'ai une espèce d'obsession pour les commencements, il faudrait que j'y réfléchisse. Le jardin par lequel vous ouvrez votre livre, hein, donc, à savoir l'île verte à Châtenay-Malabry, donc, cette maison du 19e siècle, et son jardin, qui a vu se succéder des artistes, des poètes, dont je crois le librettiste, hein, de Gounod, et puis bien sûr le peintre Fautrier, qui va s'y réfugier pendant la guerre. Et donc, vous ouvrez littéralement le livre en ouvrant le portail, hein, de ce jardin, dans lequel on a le sentiment que vous vivez une expérience très particulière. Et à la fin de votre promenade, donc à l'île verte, vous avez cette phrase « Quelque chose s'est passé ». Cette phrase toute simple. Et au fond, c'est ça ce que vous nous dites pendant tout le livre, du jardin.
Ben, c'est ça justement que j'essaye. c'est un peu comme le génie du lieu tout à l'heure, en fait. C'est dans ce jardin de l'île verte, en fait, que je suis arrivé il y a une quinzaine d'années, je crois, pour l'étudier, donc pour faire une étude historique sur ce jardin. Et finalement, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui allait bien au-delà de mes missions d'historien des jardins à l'époque. Depuis, c'est vrai que je m'interroge à la fois sur le génie du lieu et sur l'expérience expérience du jardin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est, malheureusement, je ne peux pas le dire. Encore une fois, il me semble que je ne peux que l'explorer. Hein. C'est ce que j'essaie de faire dans l'écriture. Et aussi, bien sûr, en jardinant, parce que j'ai mon jardin. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin? Mais je pense qu'encore une fois, est-ce que le but, c'est d'arriver à cerner la question, de dire voilà ce qui se passe, voilà quelle est l'expérience du jardin? Un jardin, c'est fait pour ça. C'est pas un objet qu'on contemple. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec la mode de jardin verticaux, les jardins sous les murs. J'ai toujours du mal à imaginer un jardin en face de moi. Un jardin, c'est un...
On avait traversé hein, pour venir jusqu'ici. Vous n'avez même pas regardé d'ailleurs. Vous n'avez pas fait attention en passant devant.
Bah, ça fait un peu d'écho, j'ai l'impression. Mais bon, peu importe, ça, chacun ses goûts. Mais oui, un jardin, c'est un lieu dans lequel on rentre, dans lequel on pénètre un peu. C'est pour ça que j'utilise aussi un peu l'image du livre. Un jardin, c'est un peu comme un livre. On ouvre un portail du jardin comme on ouvre un livre et on se laisse aller à une expérience, un voyage qui est à la fois intérieur et donc dans son esprit, dans sa tête et dans un lieu. On se laisse guider, l'esprit disposé, voilà la découverte. On est disposé à croire ce que l'auteur dans un livre ou le jardinier dans un jardin veut nous raconter. On a envie de le suivre, on a envie de se laisser aller. On ferme le livre, on referme derrière soi le portail du jardin, et on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et souvent, dans certains lieux, dans certains jardins, j'en suis absolument convaincu, pour moi, c'est typiquement le jardin de l'île verte dont on est en train de parler, c'est, comme ça arrive avec certains livres, des lieux qui peuvent changer profondément quelque chose en vous. Donc ce n'est pas juste une expérience, mais c'est une expérience existentielle profonde, assez forte.
C'est ce que vous suggérez, hein. Vous terminez en disant « Je me demande, avant de replonger dans la ville, si je suis le même que celui qui a poussé le portail de l'île verte tout à l'heure. Il se peut que non. »
Bah, ça vous est peut-être arrivé en lisant certains livres. Vous savez, les livres de votre vie qui vous ont, comme des rencontres. Il y a aussi les humains, d'ailleurs, dans cette histoire. Parfois, il y a des choses qui se passent qui modifient quelque chose dans le paysage intérieur et qui modifient sans doute aussi le cours de votre vie. Pour moi, c'est évident que là, à partir de cette expérience, de cette visite, première visite au jardin de l'île verte, j'ai l'impression que ma vie a pris un chemin différent.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Alors, vous êtes traversé par tous ces jardins, par tous ces 13, 14 jardins, hein, Marco Martella. Et c'est aussi écrire le jardin ou écrire l'expérience du jardin, ce à quoi vous vous livrez. Et pour la première fois, en tout cas, à ma connaissance, c'est peut-être pas le cas en italien, mais je ne lis pas l'italien parce que je sais que vous publiez aussi en Italie. Vous écrivez au jeu, c'est-à-dire à la première personne, parce que les deux précédents textes que vous avez publiés aux éditions Actes Sud utilisaient le principe de l'hétéronymie, hein, avec deux philosophes jardiniers, enfin un jardinier philosophe fictif, hein, qui a même fait de vous un traducteur fictif, ça c'était pour le dernier. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre pour écrire en votre nom? Est-ce qu'il vous a fallu être davantage écrivain ou davantage jardinier?
C'est une question difficile. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je sentais que ça n'aurait pas marché si j'avais tenté d'avancer masqué comme je l'ai fait dans les cas précédents. Je me rends compte à quel point c'est plus simple d'avancer masqué, comme on dit, d'utiliser un hétéronyme.
Alors, on l'entend à votre nom et on l'entend très, très, très légèrement à votre voix. Hein. Donc, vous êtes italien, vous avez raconté donc ces premiers jardins traversés qui sont des jardins évidemment italiens, pour beaucoup autour de Rome. Qu'est-ce que c'est qu'un jardinier italien qui travaille en France? Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait tout ça, mais est-ce qu'il vous a fallu désapprendre des choses de ce qui vous avait nourri en Italie en matière de jardin en arrivant ici?
Mais en fait, j'ai commencé à m'occuper de jardin ici en France, pas vraiment en Italie. Donc, quand je vivais en Italie, les 26-27 premières années de ma vie, j'étais un simple promeneur de jardin. Mais malgré tout, ces images sont restées assez fortes, assez présentes, et je pense que c'était vraiment une expérience, une formation assez importante, notamment les jardins de la Renaissance, les jardins baroques, Beaumarchais, mais pas seulement, Villa d'Este, tous ces jardins dans lesquels j'allais avec ma famille quand j'étais enfant. Je reste encore aujourd'hui un peu avec cette image mythique du jardin, d'un jardin maniériste qu'en Villa d'Este, dans lesquels il y a cette espèce de mariage parfait entre la culture et la nature. Et je retrouve un peu cette idée, comme j'ai cité tout à l'heure le philosophe Rosario Assunto, nature qui se fait parole, parole qui se fait nature. Il me semble, peut-être je me trompe, mais qu'on a atteint à ce moment-là, au XVIe siècle notamment, au XVe, XVIe siècle, dans ces jardins de la Renaissance, un équilibre assez enviable aujourd'hui entre l'artifice et la nature. C'est un peu l'idéal de la troisième nature, hein, pour les jardiniers de la Renaissance, une nature qui n'a ni la nature primitive, ni la nature anthropisée, comme le disons-nous aujourd'hui, donc les villes, les villages, mais quelque chose, une sorte de création commune de l'homme et de la nature. Je pense que c'est une idée qu'on a intérêt de retrouver dans notre époque, parce que dans notre époque où l'écologie est devenue un enjeu majeur, etc. Parce que ça permet de retrouver un chemin qui nous ramène vers la nature, vers un travail commun avec la nature. Travailler avec la nature pour construire un monde habitable pour les hommes et pour la nature. Ça permet aussi de nous retrouver, de nous redécouvrir comme élément de la nature, comme vivant parmi les autres vivants qui composent un écosystème, pour utiliser un langage contemporain. Donc ce n'est pas que des formes de l'architecture du jardin qui appartiennent au passé. Le jardin de la Renaissance, pour moi, est encore présent. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre, à mon avis. Ça vaut le coup de le regarder autrement, plutôt que voilà, comme un catalogue de merveilleux jardins qui appartiennent au passé, qui n'ont plus vraiment de lien, de contact avec notre époque.
On sent bien d'ailleurs, hein, que c'est lui que vous cherchez, d'une certaine façon.
Même si j'aime beaucoup le jardin sauvage.
Au fil des pages, oui. Et alors, par ailleurs, vous consacrez un chapitre, hein, malgré tout, au jardin de Versailles, alors qu'est un chapitre un peu particulier, puisqu'il est le seul qui n'est pas vraiment à faire avec l'écriture, quoique, à l'exception peut-être, hein, de Robert Pogarrison, hein, l'essayiste, hein, lui qui disait que donc les jardins philosophiques de l'Antiquité, comme les jardins du Quattrocento, cultivaient la vertu, tandis que ceux de Versailles cultivaient le vice. Donc on est évidemment bien loin des jardins dont vous parliez à l'instant. De quel vice Versailles serait-il coupable? Et on sent que vous n'êtes pas loin de lui donner raison. Pas en des termes aussi violents, mais mais néanmoins, voilà, de quel vice s'agit-il véritablement?
Je crois que c'est Saint-Simon, c'est le premier qui a accusé Versailles d'être un jardin de la démesure et surtout un jardin de domination. On le sait, Versailles, c'est d'en avoir d'une façon concrète, matérielle, cet idéal que Descartes, on en a beaucoup parlé, à exprimer, hein, l'homme comme maître et possesseur de la nature. On le voit à Versailles, dans un jardin dans lequel la nature est entièrement soumise à un projet humain de domination. Donc c'est aussi un message politique, mais tout ça a été dit, redit mille fois. Donc ça accompagne effectivement l'histoire de Versailles encore aujourd'hui. Donc bien sûr, pour Robert Harrison, c'est ça, c'est vraiment le vice majeur, c'est l'arrogance de l'esprit humain qui, par la technique, par la connaissance, pense pouvoir soumettre la nature. Et
est-ce qu'il n'y a pas de toute façon une forme d'arrogance à jardiner?
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il y a des limites. Voilà, c'est ça en fait la question importante qu'on voit à Versailles. Versailles, c'est un jardin vraiment de la démesure. C'est un jardin qui essaie d'aller au-delà de limites, de toutes limites possibles. C'est un jardin qui a perdu la raison, d'une certaine manière, paradoxalement, dans un jardin aussi rationalisé. Et c'est pour ça que... C'est vrai que c'est un jardin que je ne peux qu'admirer. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture des jardins.
En même temps, quand vous racontez votre promenade, les endroits où vous allez, puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, on sent bien que, alors, vous n'arrivez pas à partir, et en même temps, dès lors que vous êtes dans les jardins de Versailles, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être ailleurs.
C'est assez contradictoire, mais c'est le mal-être que je ressens personnellement. Mais Harrison raconte la même chose. Hein. Il a visité Versailles. Il a découvert à quel point ce jardin était porteur plutôt d'un vice que d'une vertu. Mais en même temps, il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais vraiment, c'est à partir. Et c'est moi, ça m'arrive effectivement. Je suis fasciné par ce jardin. Je pense qu'il y a peut-être la fascination du vice dans tout ça. C'est peut-être quelque chose d'un peu pervers. Mais c'est aussi un jardin intéressant quand même. Et je pense quand même que le vice, pour répondre à votre question, ce n'est pas uniquement la tyrannie, le besoin d'exprimer une tyrannie, une volonté de tyrannie, de domination, dans tous les sens, politique, vis-à-vis de la nature. C'est la perte de limites, c'est la perte du sens de limites. L'architecture du jardin de Versailles, comme tous les jardins à la française, enfin, l'élément marquant, le plus important, la grande nouveauté du jardin à la française au XVIIe siècle, c'est cette perspective centrale qui projette le jardin au-delà de ses limites, vers l'infini. Bon. Et ça, je me suis rendu compte que c'est quand même, d'une certaine manière, un jardin très moderne, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, la perte de limite, la perte du sens de limite. Il y a un jeune philosophe très intéressant qui s'appelle Olivier Rey, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Une question de taille, dans lequel il parle de ça. Le philosophe Ivan Illich aussi avait parlé de ça.
Que vous citez.
Et c'est un peu le drame de notre époque. On a perdu les limites, on a perdu le sens des limites. Vous savez, Hercule avait placé les colonnes d'Hercule dans la 2-3 de Gibraltar actuelle, et c'était marqué nec plus ultra. Et déjà, Charles de Quint se donne comme devise plus ultra, donc sur la négation, aller plus loin. Donc c'était l'Amérique, la conquête de ce qui est placé au-delà. Aujourd'hui, on n'a plus le divin, les dieux ne sont plus là pour placer des limites, pour dire n'allez pas plus loin, parce qu'au-delà de ça, ben, vous êtes coupable d'hubris, vous allez payer pour ça, parce que vous faites du mal, vous faites du tort à vous-même. Restez plutôt dans l'espace clos de la Méditerranée, c'était ça, un peu ça le sens de Colonne d'Hercule. Voilà, moi, je simplifie beaucoup, hein, je me rends compte. Donc du coup, à l'opposé de Versailles, il y a à l'opposé vraiment peut-être extrême, il y a ces petits jardins, ces petits potagers de campagne, ces petits jardins du curé, comme on dit, qui sont très bien organisés à l'intérieur de leurs limites, qui sont beaucoup plus sages d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je me suis un peu amusé à les mettre un peu en contraste, mettre le jardin de la démesure en contraste, donc à côté de jardins beaucoup plus humbles en fait. Mais c'est pas juste une question d'arrogance, c'est aussi une question de sagesse.
Mais alors, ça n'est pas seulement une question de démesure, hein, c'est aussi que, effectivement, et vous l'expliquez très bien, c'est comment ces jardins-là, au fond, nous assignent à une seule position de spectateur, ce qui modifie profondément l'expérience du jardin, en tout cas ce que vous espérez, Marco Martella, du jardin en question. Alors ça, c'est très très loin de Versailles, hein, et puis aussi du jardin sauvage, parce qu'en fait, ce jardin-là, celui dont on va parler, est très très organisé, c'est le jardin qui se trouve au centre de votre ouvrage et qui donne son titre au livre. On va entendre la voix qui en est à l'origine, et cette voix, c'est celle-ci.
I'm going to read you some passages from a long poem called The Land, which is divided into four books called Winter, Spring, Summer and Autumn. The first passage is from Winter. I sing the cycle of my country's year. I sing the tillage and the reaping sing. Classic monotony that modes and wars leave undisturbed, unbettered, for their best was born immediate with expediency. The sickle sought no art, the axe, the shell draped no superfluous beauty round our steel. The scythe desired no music for her stroke. Her stroke sufficed in music. As her blade laid low the swathes. The scythesman swept, nor cared what crop had ripened, whether oats in Greece or oats in Kent.
1931, la voix de la poétesse, essayiste, jardinière, romancière anglaise, vit à Sackville-Ouest, lisant son fameux long poème narratif The Land, paru en 1927. Vita Sackville-West, hein, je rappelle rapidement, donc qui fut poétesse, amante notamment de Violette Tréfusis, de Virginia Woolf, épouse d'Harold Nicholson, avec qui elle conçut donc ces fameux jardins, hein, du château de Sissinghurst dans le Kent. Donc un jardin d'ailleurs construit à quatre mains, ce qui donne d'ailleurs des choses un peu étonnantes, parce qu'il y a parfois contradiction ou conflit un petit peu entre leurs deux visions à eux deux du jardin. Vous le visitez, Marco Martella, comme à votre habitude, hein, vous en cherchez les limites, vous commencez par vous éloigner. Ceci dit, on comprend, je crois que c'est le jardin le plus visité d'Angleterre, celui-ci. Vous y lisez ce long poème qu'elle écrit en 39 dans ce même endroit, hein, pendant la guerre. C'est là d'ailleurs qu'elle donne sa définition du jardin. Et vous posez la question, à quoi bon écrire des poèmes? À quoi bon jardiner en temps de guerre? Et je me demandais ce qui se jouait là pour vous, qui avez déjà écrit un texte auparavant mettant en scène un jardinier en temps de guerre. Et donc dans ce nœud-là, je me demandais ce qui se jouait pour vous.
Je pense que c'est la question que se posait Vita Sackville-West et qu'on retrouve en filigrane dans ses vers. Pourquoi continuer à jardiner, en fait? Pendant la guerre, donc il écrit le poème The Garden.
C'est là qu'elle dit un monde dans un monde perdu, un petit monde, exactement. Un monde parfum, mmh. En un temps aveugle, une petite chouette qui voit dans les ténèbres.
Exactement. Malgré tout, il y a le jardin. Il y a ce contraste assez fort entre ce qui se passe. Elle voit passer les bombardiers allemands qui vont vers Londres la nuit et le fait qu'il faut continuer à planter, à cultiver le jardin. Il y a quelque chose de presque héroïque, de presque... Alors, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui, mais presque un acte de résistance, en fait. Face à soi-même, peut-être. Alors, à quoi ça sert, hein, faire des jardins? Il me semble que c'est un peu comme la poésie, c'est un peu comme les livres, c'est un peu comme la littérature, c'est un peu comme l'art. Je ne vais pas abuser de ce terme, mais c'est quelque chose d'assez pathétique, évidemment, dans le sens qu'un poème, un livre, un jardin ne peuvent absolument rien contre les bombes, contre la barbarie ou contre l'histoire, tout court, sans parler de moments spécialement difficiles comme celui que vit à Sackville-West pendant qu'il écrit ses poèmes. Mais ça permet, je pense, de garder quelque chose en vie, comme une petite flamme allumée, malgré tout, dans les ténèbres, justement. Et qui permet de résister, mais dans le sens, à la limite, plus existentielle que politique. Je ne sais pas quel est le poids, quelles sont les conséquences, on ne le saura jamais, de ces actes, par rapport au cours de l'histoire. On ne sait jamais, d'ailleurs, mais bon. Mais ça nous permet à nous de garder des espaces habitables dans un monde qui le devient de moins en moins.
Alors, plutôt que de parler des roses, de l'herbarium, de ce qui est devenu donc ce lieu de tourisme, hein, de tourisme de masse même, il faut bien le dire, Marco Martella, vous vous attardez sur une photographie d'elle, hein, et vous dites elle ressemble à son jardin, physiquement. Et vous refaites d'ailleurs la même chose, dans un chapitre qui suit, vous vous attardez sur des photographies d'Hermann Hesse, où on le voit aussi dans son jardin, et vous faites le lien, au fond, entre le corps du jardinier, le corps du poète, c'est pareil pour là, le corps de la jardinière et le corps de la poétesse, d'une certaine façon, surtout qu'elle se montre, en tout cas, elle se représente, Vita, avec des outils de jardinière. Quel jardin est-ce que vous voyez dans cette silhouette-là, proprement parlée?
Dans l'image de Vita, j'avais lu dans ses yeux, il me semblait, à l'époque, presque un défi. Il a un regard un peu dur dans cette photo, qu'on ne s'attend pas quand on regarde ce jardin très, très doux. Il y a beaucoup de rosiers, il y a des nuances très, très... Il y a une fluidité de couleurs, de textures, très anglaise d'ailleurs, et à la limite un peu ennuyeuse même. Mais ça, c'est mon jugement personnel. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu dur, qui est presque un défi qu'elle lance dans sa photo, dans la photo. Elle regarde droit dans les yeux moi, quand je regarde la photo à mon tour. Et peut-être quand on les sent aussi dans les jardins, quelque chose presque qui nous interpelle, mais d'un peu dur presque.
Et qui passerait par quoi dans le jardin?
Par quoi, justement? Peut-être par une interrogation, justement pour aller au-delà de cette image du jardin comme simple espace, comme simple lieu dans lequel on cultive de jolis rosiers. Peut-être c'est un regard qui nous pousse à aller voir tout ce qu'il y a aussi d'amertume, de pourquoi pas de souffrance dans la vie du jardinier et qui se cache dans le jardin. Qui n'est peut-être pas lié tout simplement au fait que le jardinier est par nature un homme inquiet. Et puis peut-être aussi cette inquiétude par rapport à ce qu'il y a autour du jardin, le monde, l'histoire.
Cette inquiétude, Marco Martella, vous la décrivez aussi alors en citant notamment un petit bout de poème d'Emily Dickinson. Quand elle écrit « Je ne l'ai pas encore dit à mon jardin, de peur d'y succomber, je n'ai pas la force à présent de l'annoncer à l'abeille », et qui est en fait cette question-là, cette belle question, cette profonde question, qui est le moment en fait où il faut annoncer au jardin que le jardinier soit que le jardinier va mourir, ou que le jardinier va partir, ou que le jardinier va s'absenter, mais en tout cas le moment d'annoncer au jardin le départ du jardinier. Et donc vous consacrez un chapitre à cette question-là, en évoquant notamment le cinéaste Derek Jarman, hein, qui crée son jardin au sud de l'Angleterre alors qu'il est déjà atteint du sida. Vous évoquez aussi cet ami en fin de vie dont la maladie a changé la façon de jardiner. Donc, alors bon, évidemment, il y a un lien profond entre l'acte de jardiner et sa propre mort. J'imagine qu'aucun jardinier ne contradira ça. Mais je me demandais si, pour en revenir à ce que disait Cribier tout à l'heure, si, au fond, ce qu'on plante en dit long sur son propre rapport à la mort. Je pensais à Chateaubriand, dont on parlait tout à l'heure, qui avait cette espèce de frénésie à planter des arbres. Et je sais par exemple que vous plantez des frênes et des grands noyers dans votre jardin, parce que vous l'évoquez, Marco Martella, mais en même temps, voilà. Est-ce que ce qu'on plante en dit long sur le rapport à la mort?
Sans doute. Mais ça, c'est peut-être un peu personnel et je ne suis pas sûr que ça concerne tous les jardiniers. Je pense que ça concerne sans doute pas les auteurs que vous avez cités. Et je pense que oui, je le sens assez, dans mon cas en tout cas, assez fortement ce rapport. Vous me faites penser en fait, hein, honnêtement. Mais je me demande si le jardin ne permet pas justement de passer, pas le sentiment de, le sentiment de sa mortalité, mais de l'angoisse qui vient du sentiment de la fin. Parce qu'on s'inscrit, c'est un peu ce qu'on en a parlé tout à l'heure, dans un temps plus vaste, beaucoup plus long, qui n'est pas d'ailleurs uniquement... il me semble celui du végétal. C'est pas uniquement le fait que si je plante aujourd'hui un séquoia, le séquoia, si tout va bien, va vivre beaucoup plus longtemps que moi, pendant peut-être quelques milliers d'années, on sait jamais. Ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas uniquement l'adoption d'un temps plus grand que le mien. C'est encore plus profond, je pense. C'est l'accès, peut-être pendant quelques instants uniquement, à quelque chose de presque éternel, qui est le temps de la nature. Éternel, d'ailleurs, est-ce que la nature est éternelle? Mais d'un mouvement, c'est peut-être ce que le chinois appelait le Tao, qui dépasse tout, qui est, oui, je pense qu'une sorte d'éternité dans le sens que c'est du mouvement qui se répète, qui continue, qui dépasse en fait les vies individuelles de tout ce qui compose la vie, que ce soit les humains ou les plantes. Et je pense que c'est un peu ça qu'on retrouve dans la... Donc vous avez cité mon ami Pia Pera, qui a créé un très beau livre, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, et qui reprend le vers d'Emily Dickinson. Et je pense que la maladie, dans son cas, la maladie extrême, la proximité de la mort, donc l'intensité du sentiment de la mort à ce moment-là, lui a permis, et c'est un peu le cas aussi de Derek Jarman d'ailleurs, d'accéder pendant des instants, je pense encore une fois, à quelque chose de beaucoup plus vaste, un temps beaucoup plus vaste. D'ailleurs, Derek Jarman, vous m'y faites penser, dans son livre qui s'appelle, pas traduit en français non plus, Mother Nature, c'est dommage parce que c'est un très beau livre, c'est son journal intime, hein, des dernières années de sa vie, quand il était atteint par le sida, il savait qu'il avait très peu de temps à vivre, mais il avait son jardin. Et dans ce jardin, il cherchait plein de choses. Il cherchait du plaisir déjà, des moments d'évasion, oublier les hôpitaux, s'occuper de quelque chose qui donnait un sens. Mais aussi, il le dit très bien dans son journal, l'accès justement à ces temps qui est... Alors, quels sont les termes exacts? Là, je n'arrive pas à trouver la citation dans ma tête, mais qui est effectivement un temps qui dépasse tout ce qui peut être mortel. Et je pense qu'il utilise le terme éternité à ce moment-là. Mais il explique très bien que ce sont vraiment des instants. Il dit, voilà, pendant que je suis là, que je vis cette sorte de plénitude et d'apaisement de la douleur, de l'angoisse, de la mort, le téléphone sonne et je retrouve le temps monothéiste, le temps des heures de pointe, le temps de rendez-vous, le temps des hôpitaux, le temps de la mort. Voilà. Est-ce que c'est une expérience mystique? Est-ce que c'est une illusion? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est fortement lié dans l'expérience du jardinage à la mort. Vous avez raison. Je le sens en moi aussi. Je pense qu'il y a une sorte d'apaisement de l'angoisse de la mort dans lequel le jardinage peut jouer un rôle très puissant.
Quel sens prend alors, par exemple, je ne sais plus exactement pour quel jardin il en est question, mais vous visitez un jardin dans l'un de vos textes et puis vous en rapportez un petit caillou. Vous emmenez quelque chose avec vous en sortant de ce jardin. Est-ce que c'est un geste qui peut être rituel pour vous, que vous faites souvent, ou est-ce que c'est un geste qui a un sens particulier, ou qui avait un sens particulier lié à ce jardin-là?
Non, je pense que c'est juste le besoin de trouver un lien avec un jardin, avec un lieu qui, dans lequel il y a quelque chose qui s'est passé. Là, c'est le cas, c'est un couvent de Capucins à Sintra, au nord de Lisbonne.
Au Portugal.
Un endroit absolument magnifique qui a été un moment important dans ma vie, je pense. Voilà, là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a orienté autrement, en tout cas, mes intérêts, mes recherches. Je m'intéresse depuis au jardin franciscain, au jardin capucin. Donc, j'aurais lu depuis le Cantique de créature de Saint François, et j'ai découvert à quel point il répond à nos inquiétudes par rapport à la dégradation de l'environnement, comment il nous fait penser autrement notre présence sur cette terre, nous invitant à éprouver un sentiment de fraternité avec, je ne sais pas si vous connaissez ce poème, Frère Soleil, etc. C'est comme une grande famille, quoi. Bref, un lieu important, donc du coup j'ai l'impression que j'avais besoin de partir avec quelque chose. Pas parce que je voulais m'approprier quelque chose. Évidemment,
garder un lien.
Quelque chose, voilà. Mais je garder un lien, quelque chose qui reste et qui ne va pas très loin, hein, mais parce qu'évidemment le lien, on l'établit en soi-même. C'est peut-être la peur de le perdre, ce lien. C'est pour ça qu'on a besoin d'un objet qui matérialiserait, qui serait un peu le garant de ce lien, mais je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc non, c'est pas un geste rituel que je fais d'habitude. Je l'ai fait là, cette fois-là, mais bon, c'est un petit péché. D'ailleurs, je crois que c'est interdit, mais... De voler dans le jardin.
On ne l'a pas dit. Marco Martella, merci. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la conclure sans moi. Je vous laisse tout seul, vous en faites ce que vous voulez. Je pourrais vous laisser d'ailleurs pas tout à fait seul avec Van Morrison et In the Garden, un titre que vous aviez souhaité faire entendre. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous. The fields are always wet with rain. After a summer shower, when I saw you standing in the garden.
Je vais lire l'introduction au dernier numéro de ma revue, qui est consacré au chemin, c'est le thème de la revue, dont j'écris quelques mots d'introduction. Il se peut que le jardin ne commence pas quand un jardinier plante un bout de terre pour en faire un enclos verdoyant, mais quand il imagine quelqu'un en train de s'y promener et qu'il trace un chemin. Allées royales et sentiers, parcours linéaires et curvilignes, chemins en terre battue et en béton, escaliers montant vers les nuages, sombres berceaux, ne font pas qu'orienter nos pas ou diriger notre regard. Ils réunissent les éléments du jardin, ils les structurent pour qu'ils forment un paysage. Si arbres, fleurs, statues, fontaines, parterres, pavillons, belvédères sont les mots d'une langue, le chemin en constitue la syntaxe. C'est lui qui leur confère un rythme et un souffle, mais en place la trame d'une narration. Ainsi, dit l'architecte Charles Moore, les allées à pas de doigt des parcs de chasse français du XVIIe siècle nous racontent la fuite précipitée du cerf, tandis que les parcs anglais peuvent suivre les pistes du renard serpentant à travers les fourrés. Des narrations innombrables, donc infinies peut-être, car sans cesse recommencées, jamais tout à fait les mêmes. Le jardin est bien une œuvre de la poésie, mais d'une poésie qui produirait des lieux matériels, de mondes faits pour être habités et qui s'inscrivent dans le temps des saisons, changeant au gré de la lumière. Si bien qu'on ne peut approcher un jardin en tentant de le comprendre, de l'étudier ou pire, de le cerner, mais en se venturant sur les chemins qu'il nous offre une fois son portail franchi. L'esprit disposé au voyage en terra incognita, comme lorsque nous commençons la lecture d'un livre, et que le monde quotidien, celui des choses familières et mesurables, s'ouvre vers un ailleurs où tout est encore à découvrir.
Poésie, ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Bruno Mourland pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Marco Martella, vous trouverez toutes ces actualités sur le site de l'émission. À réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.